On n'oublie pas. J'ai pas oublié. J'aime le foot, mais j'ai pas oublié. Cette Coupe du Monde est formidable. Dans le niveau de jeu, on dirait du foot de club. Dans l'arbitrage, ça fait longtemps que j'ai pas vu une compétition avec une cohérence arbitrale pareille. Manque l'ambiance et l'authenticité, mais on fera comme si on n'avait pas vu. Mais j'ai pas oublié. Il faut surtout pas oublier et le marteler. Rappeler. Rappeler que cette compétition de foot, qui est un formidable divertissement pour éviter de regarder la finitude de nos vies dans les yeux, met un sacré coup de couteau dans l'avenir de nos enfants sur cette planète. Les allers-retours en jet, les hôtels yachts et la clim des stades ne laissent que peu d'espoir pour les générations futures. Oui, on s'amuse, mais on danse sur notre tombe. Et j'ai pas oublié. Il faut surtout pas oublier et marteler. Rappeler. Rappeler que cette compétition aux milliards de revenus se déroule sur une terre restrictive concernant les droits humains. C'est peu dire. Un euphémisme. On enferme encore les homosexuels. Oui. On met des gens en prison pour leur amour. C'est ça qu'on juge. Il faut le rappeler. On enferme les gens pour la simple et bonne raison qu'ils aiment. Et j'ai pas oublié. Il faut surtout pas oublier et marteler. Rappeler. Rappeler que dans ce pays, les femmes ont un statut pas très éloigné de l'animal de compagnie. Que nos sœurs, nos mères, nos cousines n'ont pas le droit à la parole pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas de pénis. Logique. Et j'ai pas oublié. Il faut surtout pas oublier et marteler. Rappeler que si des Européens comme nous, dans nos canapés molletonnés, peuvent vibrer, c'est parce que des hommes sont morts pour construire des stades. Ils sont morts pendant leur travail. J'ai rarement vu Monique de la Conta au bord de l'apoplexie. Eux sont morts. 6500, officiellement. Autant d'enfants, de femmes, de pères et de mères qui n'ont jamais revu leur père, leur mari, leur fils parti construire un stade, se faisant confisquer son passeport, dormant dans des conditions carcérales, mangeant parfois, Inch'Allah, combien de familles abattues pour un loisir. Alors certains ambassadeurs me diront que je fais de l'influence, que je juge des valeurs et des coutumes qui ne sont pas les miennes, mais non. Je suis désolé, le malheur, la mort, l'empêchement et la souffrance ne sont pas des valeurs, ce sont des choses qu'on doit éradiquer au mieux. C'est le concept de l'évolution, il me semble, sinon, autant se balancer par la fenêtre. Alors maintenant, c'est là. On va regarder, analyser, vibrer, bien sûr, mais n'oublions pas, disons-le, je ne veux plus. Je ne veux plus que ça se reproduise. N'oublions pas. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne de 11e art. Désolé les gars d'avoir mis une sale ambiance, mais on avait dit qu'on ferait pas de cette compétition un truc tout rose, alors je me devais de rappeler ce qu'il en est. On le fait pas à chaque émission, de temps en temps c'est bien de redire qu'en fait on cautionne vraiment pas tant que ça cette organisation et que malgré notre petite influence, on aimerait peser un petit poids pour que ça ne se reproduise plus jamais. On se replonge dans le sport maintenant et seulement le sport. Avec moi, deux esthètes pour parler des matchs de ce lundi. En premier, à distance, Jean-Michel Caméléon, dit Tom Abadie, l'homme aux multiples nationalités, un jour équatorien, l'autre gallois, mais surtout et toujours anglais. Comment il va, Tom ?
Bah, toujours anglais, hein. Toujours. Ouais.
Avant tout,
ça va changer. Non, mais ça va. Écoute, journée qui a progressivement démarré en termes de match et qui a plutôt pas trop mal terminé, je trouve.
Mais au niveau des nationalités, c'est comme au bac, t'es en majeur anglais et t'as 2-3 mineurs.
Ouais, c'est ça, LV3 équatorien.
Ouais, c'est ça. Exactement, bah, ça fait un bel Erasmus.
C'est ça.
Avec nous deux, avec lui, je crois que je commence à tomber amoureux. Il est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Il est de plus en plus pertinent, de plus en plus brillant. Dommage qu'il n'arrive plus à calculer quand il a besoin de faire ses besoins. Merci Pampers. Ça va, Alex ?
Ouais, ça va. Tu as commencé à me faire peur avec l'histoire des mineurs et Thomas Abadie là.
Ouais, bah toi, c'est... on parlait de tes petits enfants.
Ah non, pas touche. Je veille au grain.
Bon les gars, on revient très vite fait avant d'enclencher sur les chroniques, sur la journée de football qu'on a eu aujourd'hui. On a fini cette journée en beauté avec un Espagne-Allemagne qui était pas dégueulasse. Messieurs, très rapidement, on va rester une minute là-dessus. Est-ce que vous voulez revenir sur 2-3 points des matchs de la journée?
Bah écoute, moi j'ai évidemment envie de parler de ce Espagne-Allemagne qu'on a attendu toute la journée. Il y avait des changements quand même. Tu sentais que côté Hansi Flick, on a voulu un peu faire évoluer le système avec notamment la présence de Thilo Kehrer. Côté espagnol, il y a eu un changement notable et intéressant, c'est qu'il a échangé Rodri et Busquets. Vous avez vu cette petite nuance. J'ai trouvé la première mi-temps plus intéressante aussi parce que je trouve que l'Espagne a plus facilement imposé son jeu, mais une résistance allemande qui est quand même notable. Après, Franchement, l'Espagne, c'est un sacré client pour la victoire finale, je trouve. Ils ont montré de très belles choses et j'ai hâte de les voir
Ouais,
sur la suite.
C'est ce que j'allais dire, Tom. Tu trouves ça bien payé pour l'Allemagne, ton résultat?
Bien payé dans le sens où l'Allemagne n'a pas vraiment montré avec ses... que ce soit dès le début du match ou avec les remplaçants qu'ils avaient envie de gagner. C'est plutôt dans ce côté-là. Je le disais dans le chat tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils ont dû certainement écouter ma chronique sur les faux neufs parce que les deux neufs qui n'ont pas démarré le match ont marqué. Ce grand Füllkrug, hein, qui passionne les foules et qui démarre ses carrières internationales avec un but au mondial, rien que ça.
Le mec est au Werder, hein. C'est bien de préciser aussi.
Ah oui, non, mais il a une carrière, mais à l'international,
ouais,
il démarre.
Il a une carrière, il a pas la carrière d'un neuf titulaire en Allemagne.
Si on va pas refaire le débat maintenant. Avant qu'on passe aux chroniques, bon, tous les matchs de la journée n'ont pas été intéressants pour qu'on y reste. Juste, je voulais entendre un petit mot de votre part sur ce Belgique-Maroc avec une très belle équipe marocaine qui a mis la Belgique au supplice, comme aurait pu le faire le Canada d'ailleurs il y a une semaine. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ce match? Une Belgique assez faible.
Bah clairement, je pense que Alex, il en parlera plus tard de la fin de l'époque uruguayenne. Je pense que là, on est un peu sur la fin de la période belge. Tu sais que ça allait être mal quand De Bruyne dit qu'on n'a aucune chance de gagner le mondial et qu'on est trop vieux pour ça.
Très intéressant la déclaration de De Bruyne, très honnête,
ouais,
c'est
ouais.
Rare de la part des footballeurs aujourd'hui.
Alors lui, moins, pour le coup, lui, il est assez honnête là-dessus. Et on l'a senti que lui, il voulait pas être là non plus. Hein. Sur le terrain, clairement, c'était pas son truc. Donc,
Et Alex, t'as un petit mot à dire sur l'équipe marocaine ?
Bah écoute, ils avaient été pas très bien payés contre la Croatie. Le Canada avait pas été bien payé, je trouve, contre la Belgique. C'est cool que les choses s'équilibrent, même si le Canada s'est fait rouster par la Croatie.
Un petit peu, ouais.
Moi, je serais pas à l'abri de penser que l'équipe marocaine... a peut-être une chance d'aller dans le dernier carré de la Coupe du Monde avec cette énergie-là. Il y a quand même des beaux joueurs. Il y a Amrabat, il y a Mazraoui, Hakimi, Ziyech. Il y a du beau monde dans cette équipe marocaine. Il y a énormément de soutien et d'énergie. C'est une belle équipe à voir. Première chronique de Thibaut Leplat, vous commencez à en avoir l'habitude, il est là avec nous tous les jours pour revenir sur le détail qui l'a intéressé, et aujourd'hui il va revenir sur l'Iran et finalement la grandeur de ces hommes qui ne sont pour le coup pas des millionnaires qui courent simplement après un ballon, mais des hommes qui jouent pour tout autre chose que simplement le football.
Bonjour à tous et bonjour Thibaut, ravi de te retrouver pour ce point quotidien, cette chronique qui, moi, me tient particulièrement à cœur, étant auditeur de l'After depuis 10 ans. C'est avec une certaine émotion et beaucoup de plaisir que je te reçois aujourd'hui. On ressent beaucoup de choses dans cette Coupe du Monde et il y a un peuple très touché et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Iran. Et je crois que tu avais pas mal de choses à nous dire à ce sujet.
Ouais, merci beaucoup. Parce que vendredi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Juste avant et juste après, Pays de Galles-Iran, match remporté par les Iraniens 2-0. Alors, je ne vous rappelle pas la situation dramatique dans laquelle se trouve la société iranienne actuellement. Déjà éprouvée par 42 ans de régime autoritaire, le pays connaît une vague de révolte sans précédent suite au sort réservé à Mahsa Amini, jeune kurde tabassée à mort pour avoir osé laisser apparaître quelques mèches de cheveux sous son voile. Au début du match, donc, pendant l'hymne, à peine murmuré par les joueurs iraniens, on a entendu le public siffler. On a vu des hommes et des femmes, drapeau à la main, pleurer, à chaudes larmes. Et ils ne pleuraient pas comme on pleure un temps révolu. Non, ces gens souffraient. Tout à coup, le Sohrudi Meliyeh Jomhouriyeh Eslamiyeh Iran, pardon pour la prononciation, mais j'ai essayé de le dire, l'hymne national iranien, avait réveillé, je crois, le lien intime, personnel, enfantin et profond que chacun entretient avec son drapeau. Qu'ils le veuillent ou non. Franchement, j'admire les joueurs iraniens d'arriver à continuer à jouer au football dans un tel contexte.
Ouais, c'est assez incroyable. Et il y a un monsieur qui est tout aussi incroyable et qui ne les a pas lâchés du début à la fin, c'est Carlos Queiroz, qui essaye tant bien que mal de leur enlever un peu de pression, mais c'est compliqué. Hein.
Ouais, ce qui est frappant, bien sûr, c'est le courage de ces gens et les risques invraisemblables que prennent les joueurs iraniens. Lors du premier match, ils avaient refusé de chanter leur hymne. Vendredi, sous la menace de représailles sur eux et leur famille, ils ont dû revenir en arrière. Et plus ils murmuraient, plus les sanglots en tribune étaient déchirants. Car les menaces sont bien réelles. Rappelons que Voria Ghafouri, ancien capitaine de l'équipe d'Iran, a été arrêté par la police iranienne jeudi dernier, la veille du match donc, pour avoir soutenu publiquement les manifestations. Et oui, dans les régimes autoritaires, pour avertir les futurs prisonniers, on n'envoie pas un recommandé par la poste. On fait un exemple. Alors évidemment, hein, nos petits dilemmes de brassard qui nous feraient récolter un ou deux cartons jaunes, nos petites querelles de sponsors, de F1, de karting, de boycott, de pas de boycott, tout cela est franchement ridicule à côté du courage des hommes de Carlos Queiroz. Risquer sa vie pour une certaine idée de la liberté et en dépit de ses propres intérêts, voilà ce qu'est vraiment la désobéissance civile. Voilà ce qu'est la dignité. Tout le reste, c'est du cirque pour réseaux sociaux.
Ouais, c'est très bien résumé. C'est vrai qu'on se sent tout petit quand on les voit rentrer sur la pelouse. Et pourtant, tu l'as dit, ils continuent à jouer au foot, quoi.
Et ouais. Et pendant ce temps-là, il y a encore des gens chez nous qui pensent que le football est responsable de la bêtise du monde, qu'il est une sorte de peste émotionnelle de laquelle il faudrait se tenir éloigné. Ce n'est pas du football dont il faut se tenir éloigné. C'est de la bêtise. Les Iraniens montrent une chose remarquable et qu'il faut répéter sans cesse. Il est aussi stupide de se demander si le football est politique en tant que tel que de se demander si la langue française est de gauche ou de droite. Le football est un rapport au monde, une certaine manière de le voir, de le vivre, de l'exprimer, exactement comme une langue ou comme l'art. Le football est un moyen d'expression. Il sert à exprimer des idées, des sentiments, une manière de voir le monde. Encore faut-il, comme les joueurs iraniens, avoir quelque chose à dire.
Mais du coup, dans ta chronique, là, pour rentrer dans notre collection du détail, c'est quoi qu'il faut retenir ? C'est les larmes iraniennes ?
Y a un détail et un geste, en fait. Le détail, ce sont les larmes iraniennes à la fin du match, après le deuxième but marqué contre le Pays de Galles. Cette fois-ci, l'émotion de Ramin a exprimé un soulagement en même temps qu'un grand bonheur triste. Et puis, il y a un geste qui m'a marqué. Un geste très étrange et qui en dit long sur les menaces qui pèsent sur les épaules de ces hommes. Souvenez-vous de la tête de Carlos Queiroz juste après le deuxième but. Il se tourne vers Azmoun, je crois, et le joueur lui passe la main autour du cou et étrangle son entraîneur pour de faux avant de lui secouer la tête en rigolant. Tout cela était à la fois très beau et très bizarre. Et on le sait depuis longtemps, le football est toujours un peu bizarre.
Ouais, et c'est pas cette Coupe du Monde et les émotions qu'elle véhicule qui vont te contredire. Merci infiniment Thibaut pour cette belle chronique.
Merci à toi, ciao.
Chronique très intéressante de Thibaut Leplat. Merci encore Thibaut d'être avec nous tous les jours. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut faire une petite réaction sur cette chronique et l'équipe d'Iran, les gars ?
Bah, tu me connais, le côté international, j'étais forcément pour le Pays de Galles, mais j'avoue que l'hymne national, quand on a vu le papy qui se voit à l'écran, qui tombe en larmes tout de suite, ça a provoqué une vraie émotion. Ça, c'était assez beau, ouais. Mais en même temps hyper triste, quoi, avec la situation.
C'est ça, mais ça prend quand même le cœur, et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Mais Tom, du coup, je vais pas te prendre la parole trop longtemps. Toi, tu vas nous faire une petite chronique sur le thème des drapeaux de la Serbie et sur fond de nationalisme. On t'écoute.
En tribune comme dans les vestiaires, un drapeau serbe un peu particulier a fait son apparition contre le Brésil. Ce drapeau, assez peu connu du grand public, est certainement scruté par les autorités de la FIFA et des populations des Balkans. Il est tellement riche en signification que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération serbe de football samedi. Alors, vous allez me dire, un drapeau et son histoire, ça ressemble un peu au sens du détail de Thibaut Leplat, ça. Eh ben non, c'est bien moi qui va vous le présenter. Ce drapeau, il ressemble à quoi ? C'est une carte du Kosovo, pays frontalier de la Serbie, imprimée sur un carré de tissu blanc et frappée du drapeau serbe. En dessous, on y retrouve l'inscription « Il n'y aura pas de reddition », qui signifie « On ne reviendra pas sur l'histoire ». La ministre de la Culture kosovare s'est exprimée sur Twitter en parlant de la rhétorique haineuse de la Serbie contre la République du Kosovo. À travers le sport et dans une enceinte officielle, c'est un acte agressif contre les valeurs humaines et sportives qu'il faut condamner. Ne rien faire est en soi une prise de position parlante. Indépendant de façon unilatérale depuis 2008, le petit pays du Kosovo n'est pas pour autant reconnu par certains pays comme indépendant. C'est le cas de la Russie, de la Chine et donc de la Serbie. Ce manque de reconnaissance de l'indépendance est justement la raison derrière ce drapeau. Pour comprendre ce drapeau, il faut faire un bond en arrière. Membre de l'ancienne Serbie depuis 1912, puis de la Yougoslavie pendant la plupart du XXe siècle, le Kosovo récupère une certaine autonomie lorsque la Yougoslavie se divise ses gouvernements par région. Le président serbe, Slobodan Milošević, y voit alors l'occasion d'agrandir sa part du gâteau et réduit drastiquement l'autonomie du Kosovo en annulant les privilèges accordés à l'Assemblée kosovare. Explose alors un conflit ethnique et politique au Kosovo. On observe des guerres similaires en Croatie et en Bosnie dans les années 90 qui mènent à la fin de la Yougoslavie. Après des affrontements sans fin et un conflit jugé comme un génocide mené par les Serbes, l'intervention de l'OTAN met un terme à ce conflit armé. Près de 15 000 Kosovars exécutés en 78 jours et des milliers de familles déplacées hors de leurs frontières, la guerre touche enfin à sa fin. Mais le conflit moral et juridique ne fait que démarrer. Pendant près de 10 ans, les négociations d'indépendance prennent place et prennent seulement fin en 2008 avec une indépendance reconnue par les États-Unis et une grande partie des pays européens. L'Espagne ne fait pas partie de ceux qui reconnaissent cette indépendance et cela mène à une réelle complication lors du match entre les deux nations l'année dernière, lorsque les Espagnols refusent d'afficher le drapeau bleu du Kosovo, ni même le nom du pays. Le football apporte d'autres complications. L'UEFA interdit pour le moment l'affrontement entre le Kosovo et la Serbie. Les familles déplacées se retrouvent aujourd'hui à représenter d'autres nations, comme la Suisse. Ces tensions sont alimentées en 2018 par les célébrations de Granit Xhaka et de Zlatan Shaqiri lors de leur but contre la Serbie, mimant l'aigle albanais. Ce symbole représente le drapeau de leur patrie mère, pays qui s'est battu avec la Serbie pour la protection du Kosovo. Ce drapeau serbe ramène donc à cette idée d'indépendance qui n'a jamais été acceptée, que la Serbie considère le Kosovo comme une simple région disputée, mais qui leur appartient, et cela provoque encore de très vives tensions dans la région. Il faudra se méfier lors du match contre la Suisse cette semaine, qui pourrait à nouveau mener à une politisation massive du match. La fédération et les joueurs serbes peuvent, eux, être sanctionnés pour sa propagation de ce drapeau, qui est particulièrement haineux et ramène à un temps bien plus violent dans la zone des Balkans. Ce drapeau n'est évidemment pas soutenu par toute la Serbie, l'intérêt est ici de ne pas faire de généralité, mais bien de comprendre la signification et pourquoi il continue d'apparaître lors des matchs de football. Un autre signe que notre sport est bien loin d'être apolitique, qu'en déplaise à Gianni Infantino.
Bon bah merci Tom, c'est très cool. T'es entre Thibaut Leplat pour le sens du détail et JB Guégan pour le côté géopolitique finalement.
J'apprends des meilleurs.
Ah oui, bien sûr. C'est une sorte d'hybride. Alex, tu vas avoir une petite réaction sur la chronique de Tom ou
Juste...
Non, parce que tu m'as dit toi-même en off, tu m'as dit les pays de l'Est, j'en ai rien à branler. Alors je trouvais ça un petit peu catégorique, mais peut-être.
Non, je voulais ajouter à ce que dit Tom. Il y a eu des réactions du ministre des Sports au Kosovo qui décrit des images honteuses, des messages haineux, xénophobes et génocidaires. On a l'impression que c'est une petite photo qui est sortie comme ça et qui a l'air de rien, mais en fait, de toute façon, on le sait, hein, cette Coupe du Monde est ultra politique. En fait, à chaque journée, on fait une chronique sur un conflit ouvert qui s'exprime à travers le foot, donc c'est pas prêt de s'arrêter.
On l'a vu même avec les supporters qataris lors du match de l'Allemagne aujourd'hui, qu'ils ont montré des photos d'Ozil qui a eu lui des petits problèmes avec la fédération lorsqu'il a voulu parler du racisme qu'il a pu avoir lors de son temps en tant que joueur de l'Allemagne. Donc voilà, tu peux prendre une position contre le Qatar, le Qatar va prendre une position contre toi, c'est aussi simple que ça.
De toute façon, Alex l'a bien dit, le foot est très très politique et ça ressort toujours en masse lors des Coupes du Monde, encore plus lors de celle-ci. On va revenir rapidement au terrain, les gars. Demain, on a un match qui est assez excitant. Ghana-Corée, moi j'adore ça, de toute façon, c'est les oppositions de style entre les continents, avec pour le coup deux belles équipes, l'équipe du Ghana et l'équipe de la Corée. Est-ce que j'aimerais bien vous entendre me dire un mot sur ce match? On n'a pas de chronique le concernant. Alex, est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu sens pour ce match aujourd'hui qui, si je ne dis pas de bêtises, est à 17h?
Ce que je voulais dire d'abord, c'est que je trouve
14h,
que
14h, pardon.
Ouais, 14h, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, je trouve le continent asiatique dans une bien meilleure forme que ce que propose l'Afrique. Je ne vais pas revenir sur la déception monstrueuse de la Tunisie. Il y a le Maroc qui a rattrapé le coup, mais c'est pas le sujet. Le Ghana n'a pas été ridicule au premier match. La Corée contre l'Uruguay, on s'est un peu ennuyé. Franchement, de toute façon, tout ce que je pronostique depuis le début de cette Coupe du Monde tombe à l'eau. Mais je m'attends quand même à un match engagé. Ces deux équipes qui sont encore dans le coup pour la qualif, donc qui ont tout à montrer. Et je pense qu'on va passer un bon moment quand même demain devant ce match.
Toi, Alex, Tom, pardon, t'es d'accord avec ce que vient de dire Alex?
Ouais, moi j'ai mis sur MPP, alors ça veut rien dire, hein, parce que MPP, je suis nul à mourir, mais j'ai mis un 2-2. Le petit André Ayou, il continue de nous planter des trucs. S'il y avait eu chronique aujourd'hui, ça aurait été clairement sur la vague de naturalisation des joueurs pour le Ghana, qui a vraiment ramené des joueurs sympas. Iñaki Williams, en plus, aurait pu marquer le but le plus incroyable de l'histoire d'une Coupe du Monde. Donc,
le scénario aurait été complètement fou.
Voilà, devant Ronaldo, en plus, ça aurait été juste magnifique. Donc, on peut s'attendre à un match sympa, mais bon, non, en même temps, je prédis des matchs sympas et après, c'est les matchs de merde et inversement. Donc, tout est possible.
J'allais dire, ça peut faire aussi 0-0. Moi, je suis comme Alex, je suis très, 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 très mauvais en prono. Je suis nul. Bien en dessous de Monique de la Conta qui domine le classement dans vos MPP d'entreprise. Mais je vois quand même, mine de rien, je me mouille, le Ghana s'imposer. Je trouve que cette équipe, elle a quelque chose. Elle a été frileuse contre le Portugal, mais elle a les moyens de mieux faire. Avant nos expertises un petit peu, j'allais dire inintéressantes, mais ce serait méchant, mais je veux dire, avant nos expertises et nos pronostics foireux, on va quand même aller sur une chronique d'un expert, de Jean-Baptiste Guégan, qui va nous parler du Brésil et de la présidentielle au Brésil avec l'élection récente de Lula.
On approche de la fin de ce mois de novembre, et qui dit fin du mois en novembre dit aussi superbe match, puisqu'on va assister aujourd'hui à un Brésil-Suisse. Et tu voulais nous parler évidemment des Brésiliens qui arrivent à cette compétition avec à leur tête un nouveau président.
Ah, le Brésil de Lula, le retour du géant sud-américain avec des vraies valeurs. Hein. Ouais. Le retour de la gauche au pouvoir. On ne rappellera jamais assez que Lula et Dilma Rousseff avaient été inquiétés pour des problèmes de corruption hein, dans l'opération Lavajato. Mais bon, faut croire que le passé reste le passé. Et donc ce Brésil avance en situation de favori avec un nouveau président. Beaucoup moins fréquentable que Bolsonaro, mais qui a posé quelques problèmes. On se rappelle de la polémique liée au port du maillot Auriverde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un supporter du Brésil, bah, on ne sait pas trop si vous êtes un supporter de l'équipe nationale ou de l'ancien candidat déchu, hein, Jair Bolsonaro, parce qu'il s'était servi de ce maillot pour rappeler ce que devait être un vrai Brésilien. Vous ajoutez à ça Neymar, hein, l'homme du Qatar, l'homme qu'on voit le plus au Qatar sur les publicités, et vous obtenez un mixte assez intéressant. Le Brésil, finalement, avec toute son opacité, face à la Suisse, hein, ce pays du silence, du secret bancaire, cet endroit fabuleux où, généralement, on va déplacer des avoirs. La rencontre promet d'être assez intéressante, surtout si vous êtes fiscaliste ou expert en placement.
Ça y est, t'as décidé de parler de la Suisse, là, la dernière fois, t'as refusé catégoriquement de nous en parler.
Bah, la Suisse, pour moi, est un pays que j'adore. Hein. C'est un pays qui, depuis que j'ai compris les largesses du secret bancaire et sa capacité à être chaleureux dès lors qu'on arrive avec $1 million, tout de suite, ça change les perspectives.
Certes, mais bon, au moins, ils nous fournissent du bon fromage.
Ah, du fromage, et pas que du fromage. La tranquillité. La sérénité.
J'ai on pense au tennisman français. Hein.
Ah, le tennisman français, j'ai aussi envie de penser à Cahuzac.
Oui, c'est
vrai. Autant de figures françaises qui ont énormément profité des allers-retours entre Paris et la Suisse. La Suisse.
Exactement.
Merci.
Bon, je voulais quand même revenir un petit peu sur l'équipe brésilienne. On sait qu'il y a un très fort rapport, justement, c'est pour ça qu'aussi que Jair Bolsonaro s'est emparé un peu du sujet, entre les évangélistes et le pouvoir au Brésil. Et c'est pour ça qu'il y a aussi probablement quelques fractures au sein même du vestiaire brésilien, parce qu'une grande partie du vestiaire est évangéliste et se rapprochait de Bolsonaro.
Ouais, ça c'est intéressant. La question évangélique au sein de la sélection brésilienne, elle pose la question de la politisation du vestiaire et finalement de la dimension spirituelle et religieuse dans la performance. On se souvient que quand Neymar s'est engagé pour Bolsonaro, beaucoup de ses coéquipiers en off l'ont accusé d'avoir fracturé finalement la confiance dans le vestiaire et le côté apolitique du vestiaire. Il y a fort à parier que cette Coupe du Monde, si elle va au bout pour le Brésil, ça va nous montrer que ces fractures ont été temporaires. Mais si ça échoue, il y a de fortes raisons et de fortes chances pour que ça nous renvoie justement à ce qui s'est passé à ce moment-là. Les différences, les écarts dans le vestiaire, et notamment cette question autour de l'évangélisme, c'est vraiment une piste d'analyse à pas négliger. Pour l'instant, le Brésil apparaît sur le papier comme un favori indépassable. On verra après ce que ça va donner.
Très bien. Eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique JB.
Tout toujours et encore, Val va me dire que c'est redondant, mais je continuerai de remercier et Thibault Leplat et Jean-Baptiste Guégan d'être nos chroniqueurs réguliers sur ce dispositif de la Coupe du Monde. C'est une vraie chance de les avoir, d'avoir des gens avec une telle expertise à nos côtés. Et comme le disait Alex en off, je vais répéter mon chef concernant Neymar et l'élection présidentielle. Ça fait toujours plaisir. On finit en beauté cette émission avec notre doyen Alex. Tu vas nous parler de ta nostalgie pour l'Uruguay et de pour toi la fin d'une génération dorée.
Ouais, comme tu le dis, mon Jules, je suis un peu nostalgique parce que s'il y a bien un pays qui m'a fait rêver en Coupe du Monde, c'est l'Uruguay. Comment ne pas aimer cette équipe à chaque compétition.
Je te coupe deux secondes, mais pour expliquer à tout le monde un petit peu, tu as quand même 88 ans, donc toi tu as vécu les premiers sacs de l'Uruguay qui était une grande nation de foot à l'époque.
Ne spoile pas ma chronique.
Désolé.
À chaque compétition, c'est l'équipe que j'ai envie de voir, plus que le Brésil, plus que l'Argentine, parce que c'est une équipe qui a une âme. C'est un groupe, un peu comme la Colombie, que je trouve impossible à détester parce qu'elle pue le foot. C'est des mecs qui ont beau être carbo en club, quand ils passent le maillot, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie qui opère. Et je me rends compte que pas mal de mes Coupes du Monde ont été bercées par ces équipes. Évidemment, t'en parlais, Jules, t'as un peu spoil le truc, mais c'est pas grave. Premier souvenir, 1930, je revois encore cette ambiance de ouf dans les rues de Montevideo, la ferveur qui monte avant la première finale de l'histoire de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le départ depuis Buenos Aires avec 30 000 supporters argentins voulant embarquer sur les 6 paquebots affrétés spécialement pour l'événement. Et tous les autres restés à quai, tous les copains, ou partis avec d'autres embarcations de fortune. Je me rappelle de cet arbitre belge qui accepte d'officier à condition qu'un bateau soit prêt à partir si jamais le match part en sucette. Et puis je me rappelle du match. Le but de Dorado à la 12e minute, l'Argentine qui revient, qui mène à la mi-temps pour finalement perdre 4-2, et mon pote Jules Rimet qui remet le trophée au vainqueur, l'Uruguay. Que de souvenirs. Non mais plus sérieusement, je veux vous parler de mes souvenirs à moi, ceux que j'ai vraiment vécus. J'aime revoir le parcours incroyable de l'Uruguay en 2010, avec un Forlan qui était étincelant, qui était exceptionnel dans un rôle d'attaquant meneur de jeu. On aime l'élégance chez Onzième Art, et là on touchait au sublime, je vous le garantis. J'aime me rappeler de la main de Suarez contre le Ghana, peut-être le plus beau geste du mondial, et je le pense très sincèrement.
Va te faire enculer.
J'aime me rappeler de la douce violence de Diego Godin. J'aime me rappeler de la folie de Sébastien Abreu, et j'ai beau être pour l'OM, j'aime Cavani. Oui, j'aime Edinson Cavani. Oui, je trouve cet homme absolument exceptionnel. Et je parle pas que du footballeur. Et puis, il y a Luis Suarez. Luis Suarez, les gars. Est-ce qu'on réalise que Luis Suarez a apporté au foot? Dans une époque où tout est cadenassé, où tout est sclérosé, où tout est universalisé, est-ce qu'on réalise la leçon de modestie qu'il a donnée au monde entier à travers son football? Alors, jeudi dernier, j'ai allumé ma télé. Je me suis menti. Je me suis dit qu'avec Valverde, un des meilleurs milieux de terrain au monde, avec le vice de Suarez, avec Betancourt, avec Núñez, avec Pelestri, ça allait passer. Mais j'ai vu une équipe sans idée, j'ai vu une équipe fatiguée, j'ai vu son coach partir. Et ce soir, je dois reconnaître que je suis un peu triste parce que j'ai peur de perdre mon Uruguay.
Bah écoute, j'aurais bien aimé dire que ta chronique était super, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que 2006 et Suarez, c'est une des premières fois que j'ai vécu une vraie injustice dans le foot et que j'ai haï cette équipe d'Uruguay à ce moment-là. J'ai haï Suarez, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé que c'était de la triche et j'étais énervé toute la nuit. Mais chacun sa vision du foot, c'est marrant. Toi qui nous vends souvent un foot romantique, te voilà être devenu un petit fils de pute. Tom, est-ce que tu as un mot à dire sur cette équipe d'Uruguay? Toi aussi, tu penses qu'on est à la fin d'une génération dorée et que finalement, ça va pas faire grand-chose?
Je reviendrai
manque,
pour...
Juste avant de te lancer, le manque d'Oscar Tabarez doit jouer aussi.
Ouais, bah clairement. Je ferai un petit instant promo pour l'émission avec Desi si Suarez n'avait pas touché le ballon avec sa main, qui était l'une des premières émissions qui m'a dit « Tu sais quoi, peut-être qu'on se marre, ça peut être sympa. Ça peut être cool. » Et puis finalement, un an plus tard, je regrette vraiment. Quoi. Mais, est-ce qu'on arrive à une fin de génération? Moi, j'adore Valverde, donc moi, je dirais plutôt non. Il y a des petits joueurs sympas, on parlait en off de Facundo Pelistri, ce qui peut avoir le même carrière que Januzaj. Et puis, le petit Ugarte au milieu qui joue jamais. Hein, mais bon, c'est comme tous mes petits prodiges, ils jouent jamais. Donc voilà, on peut peut-être voir des petits jeunes arriver dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai que quand tu perds Luis Suarez et Cavani sur la ligne de devant, tu peux rapidement... bah, perdre un peu espoir, surtout quand le remplaçant de César de Nunes, quoi.
C'est vrai. Et on verra si l'Uruguay arrive à retrouver des pointures mondiales au niveau de Cavani et Suarez, parce qu'on parle pas de bons attaquants, hein. On parle de joueurs de foot qui ont été les meilleurs attaquants de leur génération, tout simplement, pendant une période. Et mais là où je te rejoins, c'est qu'on a, à l'heure qu'il est pour moi, Valverde, qui est un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, qui a failli d'ailleurs retourner le match contre la Corée avec cette frappe incroyable sur le poteau. Donc on verra la génération. Frappasse, lui, hein. Pardon.
Spécialiste frappasse, lui, hein. Vraiment.
Ouais,
c'est,
ouais, il aime bien.
C'est que
il
des frappes.
Vraiment, c'est. Il y a pas de coup, ça fonce tête baissée, sans réfléchir, comme on aime. On dirait Val sur un Urban.
Djibril uruguayen, quoi. C'est Djibril Cissé, le retour.
Bon, écoutez, les gars, on va observer ça attentivement. On verra peut-être que l'Uruguay va être dans un trou générationnel à cette Coupe du Monde et qu'ils reviendront plus fort dans 4 ans, voire dans 8. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex et Tom. Et merci à vous qui nous suivez toujours plus nombreux. C'est un vrai succès, ce dispositif Coupe du Monde. Et on est content de vous voir tous kiffer, avoir vos retours, avoir vos écoutes et votre suivi. Donc en tout cas, continuez à regarder le foot et surtout n'oubliez pas dans quel pays on se trouve et dans quel pays se joue cette Coupe du Monde. Ce n'est pas innocent, on peut séparer le sport du pays. Mais par contre, c'est interdit de faire la même chose avec Roman Polanski. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous et ciao.